élevons nos têtes vers toi, nos mains vers toi, et baissons nos têtes devant ta majesté, pour te dire merci de nous avoir permis de nous rassembler ce soir. Père Céleste, nous te demandons d'être au milieu de nous, s'il te plaît, selon ta promesse, que tu avais dit que tu serais au milieu de tes enfants, que tu es au milieu des louanges de tes enfants. Tes enfants t'ont loué, t'ont adoré, t'ont parlé, t'ont prié. Maintenant, ils veulent écouter ta parole, que tu nous inspires dans toutes ces choses, et que tu nous aides également dans l'audition. Pardonne-nous nos péchés. Sois au milieu de nous, Père. Honore-nous de ta présence, s'il te plaît. Et nous nous attendons à toi ce soir. Et pour nos bien-aimés qui ne sont pas bien, nous les remettons aussi entre tes mains. Ceux qui sont au travail, donne-leur le courage d'accomplir leur travail. Ceux qui sont empêchés, que tu sois avec eux. Nous demandons de nous aider à faire encore un pas en avant aujourd'hui. Ô Dieu, dans la bonne direction, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse richement. Excusez-moi pour le retard. Nous allons nous lever, nous dirons dans Romains chapitre 7. Excusez-moi. À partir du verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Amen. Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Je fais ce que je hais. Peut-être nous intitulons ça comme ça. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Oui. Ils pêchent parce qu'ils sont obligés de pêcher. Et le frère Abraham me dit, c'est un triste état. C'est un état pitoyable. Quand vous dites que vous devez pêcher. Donc, quelqu'un qui va faire d'une manière constante quelque chose qu'il ne veut pas faire, il ne désire pas le faire. Il vole, il ne veut pas voler. Il ment, il ne veut pas mentir. Il fait des choses qu'il ne veut pas. Il hait ces choses-là, mais il les fait. Il ne veut pas être un pécheur, mais il est. C'est quelque chose dont il ne peut pas faire autrement. Il doit le faire. Et l'apôtre, toujours Paul, nous parle, je pense que c'est dans Hébreux 12. Je vais vérifier. Oui, c'est dans Hébreux 12, au verset 1er. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous sommes comme ça. Nous avons ces points faibles qui font que le péché nous enveloppe facilement et nous demande de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et quand vous en êtes à cet état-là, vous êtes en fait dans l'état d'un esclave. Esclave du péché. Où le péché vous dicte sa loi. Où il vous demande de le faire. Et le péché, nous savons, ça vient du cœur. Ces choses-là qui viennent du cœur, ces pensées, ces adultères, ces vols, ces mauvaises pensées, tout cela, cela vient du cœur. Et cela nous sépare de Dieu. Cela nous éloigne de Dieu. Dans Ésaïe 59, cette chose que l'on fait en cachette et qu'on sait que c'est mal, qu'on fait quand même, et on n'est pas bien dans sa peau parce qu'on l'a fait. Ces pensées qui nous traversent la tête alors qu'on ne veut pas y penser, ça traverse quand même. Ces choses-là, ne faisant pas attention en les nourrissant, parfois par distraction, on peut les nourrir, ça nous éloigne de Dieu. Et le prophète dit, donne ce témoignage, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Quand on est dans cet état-là, on ne comprend pas pourquoi Dieu ne répond pas. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous tire pas de cette situation? Il dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Dieu a les capacités de vous sauver, de vous sortir de là, de vous sortir de cette situation-là. Mais ni son oreille trop dure pour entendre, il entend les prières. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et ce que le péché fait de plus, quand vous êtes captif comme ça, vous êtes en fait captif dans une terre étrangère. Parce que dans la terre promise, les enfants d'Israël y étaient libres. Amen. Et en tant que chrétien, l'apôtre nous dit dans Galates que Dieu nous a appelés pour la liberté. Nous sommes libres, nous devons être libres. Mais quand on est enveloppé par le péché, quand on est captivé par le péché, capturé par le péché, même la louange, on n'arrive pas. En Christ, on ne pêche pas. Mais quand on est en dehors, c'est là que ces choses-là arrivent. En Christ, nous devons avoir les pensées qui étaient en Christ. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ. Nous devons faire les œuvres qu'il faisait, nous devons les faire. Nous devons marcher comme lui, être comme lui, tout au long de notre voyage. Mais une fois qu'on est captif du péché, même la louange n'y est pas. On ne peut plus louer Dieu comme on voudrait. Pourquoi? Parce qu'on est captif dans un monde où l'on pêche. Oui. Et lorsqu'on vous demande de chanter un cantique alors que vous êtes en plein monde, c'est tout simplement impossible. Vous ne savez plus louer, vous ne savez plus adorer. Le psaume 137 nous rend ce témoignage. Ils étaient captifs à Babylone à cause du péché. transgression de la loi. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Quand vous vous retrouvez en plein monde, que vous n'êtes pas à l'aise devant tout ce qui se passe devant vous, vous vous souvenez de Sion, de là où vous étiez avec les frères, avec les sœurs. Vous vous souvenez comment vous louiez Dieu. Vous vous souvenez comment vous étiez là, heureux, malgré les difficultés, malgré les bonnes choses, malgré les mauvaises choses. Mais vous vous souvenez de cet endroit-là, de Sion. Et ils étaient en captivité. Et aux arbres, les saules, aux saules de la contrée, pourquoi ? Parce que ce sont des arbres avec des feuilles qui pendent. Souvent, ils appellent des saules pleureurs. Donc, ce sont des arbres qui donnent l'impression de pleurer. Toutes les branches tombent. Il y en a souvent ici au bord des étangs. Et au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. C'est un peu comme nos jeunes musiciens ici. Nos musiciens ici, nos instrumentistes, pas des musiciens, disons nos instrumentistes, prennent leurs instruments et les suspendent aux arbres, au sol. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent plus à jouer comme ils jouent ici. Pourquoi ? Parce que ceux qui peuvent jouer là-bas à Babylone ne correspond pas à ce qui le réjouit. Ça ne correspond pas à ça. Et c'est pourquoi il peut aimer l'instrument, mais jouer cet instrument-là à Babylone, ça ne l'arrange pas. Alors, il suspend sa harpe. Et là, nos vainqueurs, qui est vainqueur à ce moment-là, ce sont les démons, n'est-ce pas ? Nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs, de la joie. Mais comment pouvez-vous être dans la joie alors que votre joie se manifestait quand on vous disait « Allons à la maison de l'Éternel ». Comment votre joie peut-elle se manifester quand on vous disait que si vous êtes dans la joie, chantez des cantiques. Et vous êtes captifs, obligés de faire des choses que vous ne voulez pas faire, que vous n'aimez pas faire. Et nous demandait, mais dans ces conditions-là, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ? Tant que vous êtes sur votre terrain, il n'y a pas de problème à ça. Nous sommes dans le deuil, là. Le jour des funérailles, on chantait, on est arrivé à chanter. Les frères et les sœurs ont chanté. Pourquoi on était toujours sur notre terrain ? Malgré le deuil, on est sur notre terrain. On est dans notre terre, on chante. Mais si on était dans le monde, on aurait été vraiment désemparé. Mais ici, nous avons, malgré tout, malgré la douleur, malgré tout ce qui arrive, tant qu'on est à Sion, on est toujours porté à louer Dieu. Et vous avez cette liberté-là. La douleur va vous dire, ne loue pas Dieu, mais c'est en vous. Vous allez quand même le louer. Ne chante pas des cantiques, mais c'est en vous. Vous allez chanter des cantiques. Que ce soit en pleurant, que ce soit en chantant, ou en souriant, vous allez chanter des cantiques. Parce que c'est en vous. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Et personne ne peut vous en empêcher. Rien ne peut vous en empêcher. Paul dit, ni l'amour, ni les persécutions, ni quoi que ce soit ne peut vous empêcher. Mais pour eux, parce qu'ils étaient captifs, ils ne pouvaient pas chanter. Tant que vous êtes captifs, vous n'arrivez pas à chanter. Et vous avez la chose que vous aimez faire. Ça veut dire chanter, louer Dieu, Vous n'arrivez pas à le faire. Vous vous sentez prisonnier de quelque chose. Et l'apôtre pose la question en disant, d'abord, misérable que je suis. Qui me délivrera? Alors nous allons voir d'où vient cette délivrance. Lorsque ce genre de situation nous arrive de faire ce que nous haïssons, de voler alors que nous n'aimons pas voler, de mentir alors que nous n'aimons pas, eh bien, qu'est-ce qui peut encore nous délivrer? D'abord, nous devons savoir, nous devons regarder l'environnement dans lequel nous sommes, physiquement, parce qu'il y a un combat entre l'homme intérieur et l'homme charnel. Et Jésus prie, il dit ceci, et il trouve important de prier pour ce que Dieu lui a donné. C'était très important pour lui parce qu'il les laissait dans un environnement hostile, dans un environnement plein de tentations. Alors, c'est pourquoi il a prié pour les siens. C'est pourquoi il a prié pour vous. Vos difficultés, il les connaît. Les miennes, il les connaît. Mais il dit à une des églises dans l'Apocalypse, il dit, « Je connais ton affliction. » Il connaît nos afflictions. Dans Jean 17, il se met à prier. Il prie pour vous et pour moi. Il dit, au verset 6, il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Maintenant, ces hommes-là sont à lui. Alors, mais lui va quitter le monde. Et il dit, verset 9, « C'est pour eux que je prie. » Il dit, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. » Donc, si vous êtes un don de Dieu à Christ, eh bien, sachez que cette prière est en votre faveur. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Jésus dit, je ne suis plus dans le monde. Alors, n'allez pas le chercher là-bas. Sinon, vous allez rencontrer un ange qui vous dira, pourquoi cherchez-vous, n'est-ce pas, parmi les morts, celui qui est vivant? Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. C'est ce que Dieu veut, que vous soyez joyeux, toujours joyeux. Et si vous êtes dans la joie, vous chantez des cantiques. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Amen. Amen. Je ne suis pas du monde. Vous ne l'êtes pas non plus. Ce monde n'est pas fait pour moi. Il n'est pas fait pour vous. Comme moi, je ne suis pas du monde. Il n'est pas fait pour Christ. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Ce qui fait, nous devons savoir combattre. Et pouvoir combattre, l'apôtre nous dit, nous avons pour cela des armes offensives et des armes défensives. Car avec vos armes offensives, n'hésitez jamais à poursuivre l'ennemi. Poursuivez-le jusqu'à son extinction. Les armes que Dieu nous donne, ce sont des armes efficaces. Ce sont des armes redoutables pour le démon. Mais n'utilisons pas les armes humaines, les armes charnelles. Regardez bien l'exemple de David avec Saül. Quand Saül essaye de lui donner ses armes à lui, qui étaient les mêmes armes que Goliath, eh bien, David a dit « ça ne marchera pas ». je préfère y aller au nom de l'Éternel. Amen. Et c'est le nom qui nous a été donné. Oui. Et nous y allons avec des armes offensives. Une grande arme offensive que nous avons, c'est-à-dire pour attaquer, c'est quoi? C'est la parole. C'est l'épée. Oui. L'épée de l'esprit. L'épée n'est pas une arme défensive. On ne vous a pas donné l'épée rien que pour vous défendre. On vous a donné l'épée pour frapper l'ennemi. Amen. C'est le bouclier qui est une arme défensive. Un bouclier, on vous injurie, ça rebondit et ça rentre là-bas. Ça ne vous touche pas. Ça va? Ça, un bouclier de la foi, vous avez la foi, malgré tout ce que l'autre peut vous dire, eh bien, cela, ça ne vous bouge pas. Alors, il dit, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et au verset 17, nous voyons, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quand il demande, l'apôtre, qui me délivrera de ce corps de mort, Jésus-Christ répond à cette question. Dans Jean 8, le Seigneur Jésus dit ceci. Verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous savez, un disciple, c'est un étudiant. Et les disciples de Christ, ils ont comme maître Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus leur dit, vous m'appelez maître et vous le faites bien. C'est lui-même qui nous enseigne. Et il a combattu, qui ça? Satan. Et il l'a vaincu. Déjà dans le désert, lors de la tentation, Satan a abandonné la bataille. Il est parti. Et Jésus est notre maître qui nous apprend à le combattre. Il dit, quand vous combattez Satan, ne le combattez pas avec les armes. Si on vous injurie, n'injuriez pas. Amen. Amen. Si on vous frappe sur la joue droite, ne frappez pas en retour. Ça n'a pas d'effet. Amen. Si on vous fait telle chose, ne le faites pas à autrui. Ça n'a pas d'effet. Ce que vous avez à faire, soyez comme des agneaux. Amen. Il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Et si vous êtes ses disciples, vous apprendrez, vous finirez par connaître la vérité. Mais si vous n'êtes pas ses disciples, vous allez en arriver, comme Paul dit à Timothée, à ses sœurs, à ses frères qui apprennent toujours, mais qui n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Or, sa parole qui est la vérité, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà votre délivrance de l'esclavage du péché. La connaissance de la vérité vous rend libre. Ça vous rend libre en Jésus-Christ. Vous apprendrez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?»« en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » C'est cette situation-là que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas rester dans cette situation. Parce que en étant esclave, les maîtres de corvée nous font faire des choses que nous n'aimons pas faire. Mais il y a un moyen d'en être délivré. Oh, être au pied du Seigneur en tant que son disciple, apprendre de lui. Et nous connaissons les conditions pour être disciple. Pour être disciple, celui qui veut être mon disciple, qui se charge de sa croix, qu'il me suive. Dites amen à ça. Hein? Et vous, nous avons déjà parlé sur cela. Il y a 7 conditions comme cela pour être disciple du Seigneur. Et quand vous remplissez ces conditions-là, vous êtes prêt à vivre en toute liberté. Que le mal que vous haïssez, vous ne le ferez plus parce que vous le haïssez. Donc, le frère dit, quand vous arrivez dans cette situation-là, il y a toujours pour les pécheurs une espérance. L'espérance de quoi ? L'espérance d'être délivré. Délivré de ce péché qui vous enveloppe si facilement. Et comment y arriver à être disciple ? Ben, à connaître, à cette connaissance de la vérité, le pécheur a l'espérance de recevoir une promesse que Dieu lui fait, la promesse du Père, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est un esprit de vérité. Amen. Jean 16 nous dit ceci. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Celui qui vient vous consoler, après que le cœur vous condamne de faire ces choses que vous n'aimez pas, ces choses que vous haïssez, il y a un Consolateur qui viendra. S'il s'en va, alors le Consolateur viendra. Mais s'il ne s'en va pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est une promesse. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Lui va le faire. En ce qui concerne la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Cette même vérité qui vous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, c'est-à-dire la parole de Dieu, et il vous annoncera les choses à venir. Dites amen à ça. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous serez ses disciples. Et aujourd'hui, nous avons cette onction du Saint-Esprit au milieu de nous qui nous enseigne ces choses, qui nous enseigne où nous en sommes, qui nous enseigne que le Saint-Esprit nous rend témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes libres. Nous ne sommes captifs de personne. On ne peut même pas être captif d'une maladie. Nous sommes au-dessus de tout cela, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Oh, si vous allez au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, mais vous êtes une bombe pour l'ennemi, une sérieuse bombe pour l'ennemi, que même dans la douleur, l'ennemi ne sait pas mettre une prise sur vous. Vous êtes complètement indépendant de lui. Il vous demandera, comme il a essayé de demander à Job, « Maudit Dieu et meurs. » Eh bien non, vous ne le maudirez pas. Vous ne lui obéirez pas. Quand vous le recevez, donc, vous n'allez plus faire ce que vous voulez faire. Dans ce que votre chair veut faire. Dans Galates 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ, c'est la parole ointe. C'est la parole ointe de notre temps. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Verset 17, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Vous savez, David, quand il a eu envie de faire le dénombrement, pour voir sur combien de gens y régnaient, n'est-ce pas? C'est son orgueil qui l'a poussé à faire ça. Il savait que c'était, quelque part au fond de lui, il devait savoir que c'était mauvais. Mais sa chair voulait absolument savoir ça, sur combien de gens il était en train de régner. Et quand il envoie son officier pour faire le dénombrement, David, à ce moment-là, un peu nous tous, quand nous péchons, nous ne ressentons pas ça. C'est après, une fois que cela est fait, que le cœur commence à battre. Ouais. Donc, au moment où nous le faisons, nous ne ressentons pas grand-chose, nous ressentons même peut-être un certain plaisir. C'est un plaisir amené par Satan lui-même. Dans 2 Samuel 24, verset 1er, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, parcours depuis Dan jusqu'à Beersheba, c'était les deux extrémités. Qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux, si c'est ça ton problème, et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée. Jusque-là, sa chair veut, y tient, sa chair y tient. Mais l'esprit n'intervient pas encore. Ce n'est pas le désir de l'esprit. Le roi persista. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et campèrent à Roer, à droite de la ville et qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaïzer. Ouais, ils ont eu tout le temps de faire ça et David attendait le résultat. Ils allèrent en Galaad et dans le pays de Takhtim, Odchi, ils allèrent à Dan Yan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le Midi, dans le sud, dans le Midi de Juda, à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Pendant 9 mois et 20 jours, David attendait le résultat du rôle du dénombrement, sans que cela ne lui fasse quoi que ce soit. Mais ce n'était pas le désir de l'Esprit. Ce n'était pas le désir de Dieu. Alors, Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David, c'est alors que quand on lui a remis le rôle, c'est à ce moment-là, on lui donne les chiffres qu'il y a. David sentit battre son cœur. Tout se passe dans le cœur. L'Esprit vient et parle dans votre cœur. Après qu'il eut ainsi, David sentit battre son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Je ne voulais pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Je n'aime pas ce que je viens de faire, mais je l'ai fait. Mal que je ne voulais pas faire, eh bien, je le fais. Je l'ai fait. Et maintenant, Éternel, daigne pardonner l'iniquité. » Vous voyez qu'il savait. « Daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Ouais. Esclave, quand on est esclave du péché, esclave de son orgueil, esclave de sa fierté, esclave de quelque chose. Le frère, quand il parle de Marie-Madeleine, je crois que c'est elle, hein, de qui Jésus a chassé 7 démons. Et le frère Abraham dit, elle se croyait être certainement la plus belle de toutes les femmes. Elle en était tellement orgueilleuse. Hein. Mais qui peut vous délivrer de ces choses-là? La vérité vous affranchira. Si vous êtes disciple du Seigneur, vous êtes appelé à être libre. Alors, dans Galates 5, on termine. Il dit, au verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Dites amen à ça. C'est Galates 5, 17. Donc, comme cela, ce que vous voulez faire, vous n'allez plus le faire. Désormais, verset 18, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça va? Or, les œuvres de la chair sont évidentes, la débauche, l'impureté. Vous n'aimez pas ça. Mais si l'Esprit n'est pas en vous, c'est la chair qui va prédominer. Parce que la chair a toujours des désirs contraires. Et la chair va vous faire faire des choses qui risquent même de vous dégoûter vous-même. Et aujourd'hui, c'est le jour où le Saint-Esprit est répandu sur les gens. Saint-Esprit, la puissance d'en haut, qui vient pour vous délivrer. Aujourd'hui, c'est le moment. C'est le temps, c'est l'heure de la délivrance. C'est le moment où Dieu, dans toute sa puissance, est en train d'appeler des gens, des hommes et des femmes, à son peuple, de sortir du monde, d'un monde de péché, pour aller dans une vie de service en lui. Et David est conscient de ces choses. Après son péché avec Bathsheba, David dit, il dit ceci, il n'en peut rien. Nous avons lu ça dimanche passé. Il n'y peut rien. En fait, il est né dans le péché. Il est né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Psaume 51. C'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas résister. C'était fais-le, fais-le. Et il a été jusqu'au bout, jusqu'à faire tuer Uri. Oui. Qui était un fidèle officier. Je ne crois pas qu'il voulait le tuer. Mais le péché l'a enveloppé. Et il l'a amené à cette extrémité-là. Verset 5, psaume 51. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Vous savez, quand il a commis son péché, il ne ressentait pas encore ça. Ceux qui chantent ici le psaume 51, si vous regardez le verset 2, c'est bien dit, c'est après que Nathan soit venu le lui dire. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Tant que Nathan ne lui avait rien dit, David n'y voyait rien. Son corps lui disait qu'il avait bien agi. Et nous, tant que le Saint-Esprit qui doit nous convaincre du péché ne nous dit rien, eh bien, nous ferons ces choses-là. Mais quand le Saint-Esprit viendra et nous convaincra que c'est mal, vous verrez combien, en tant que fils de Dieu, élu avant la fondation du monde, vous haïrez cette chose-là que vous faites. Et qu'est-ce qui vous en délivrera? La parole de Dieu. La parole de Dieu vous fait connaître la vérité. Et David dit, « J'ai péché contre toi seul, verset 6, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité... » C'est quoi la vérité? La parole de Dieu. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Si, c'est dans le psaume 119 où il dit, je serre cette parole contre mon cœur afin de ne pas pécher. Et c'est là où nous devons en arriver. C'est notre libérateur, la parole de Dieu. Cette parole que Dieu nous a envoyée en cet âge. Et nous sommes libres. Nos jeunes sont libres de la mode. Un jeune délivré par Jésus-Christ, il est libre de la mode. Un jeune qui n'est pas libéré en cet âge, il sera captif de la mode. Tout ce qui sortira, il voudra l'obtenir. Tout ce qui sortira comme mode vestimentaire, il voudra le porter parce que c'est à la mode. Mais quand quand la parole de Dieu vous délivre de ces choses, cela devient comme de la boue. Tout ce qui vous préoccupe, c'est d'être décent. Mais quand vous êtes captif, vous en êtes captif. Vous allez vouloir suivre cela. Et si un jeune n'en est pas délivré, et que si par malheur, mais disons par hasard, entre guillemets, si il a vécu dans une famille chrétienne, pendant sa jeunesse, on lui a appris à s'habiller bien par les parents qui étaient croyants, vous allez voir si cet enfant, si ce jeune n'était pas délivré, vous allez voir, le jour où il va se sentir libre selon la chair, vous allez voir combien il va évacuer ses frustrations. Tout ce qu'il aura emmagasiné avant montre en fait ce qu'il y avait à l'intérieur. Cette personne était bien prise dans les filets de l'oiseleur. Mais une fois que Dieu vous en délivre, vous savez, jeune ou pas jeune, il va s'habiller comme un jeune, c'est tout à fait bien, mais un jeune chrétien, il va s'habiller comme un adulte, mais comme un adulte chrétien. Amen. Et il va parler comme un adulte chrétien, parler comme un jeune chrétien, vous êtes chrétien. Hein? Jésus est né, il est passé de 0 à 33 ans, n'est-ce pas? Il a connu l'adolescence, il a connu ces choses, mais il faisait toujours, même à 12 ans déjà, il était toujours dans les affaires de son père. Ce qui fait, il n'était pas lié aux choses comme Paul dit à Timothée, les joies de la jeunesse, là. Ces choses-là de la jeunesse, il dit, fuis ça. Parce que ce sont des choses qui capturent quelqu'un. Oui. Mais si vous voulez être libre, demeurez dans la parole. Cette parole est libératrice. Et la parole qui nous libère des liens de Laodicée, nous l'avons reçue en cet âge. Dieu nous l'a envoyée en cet âge. Et Dieu nous a montré que ces choses qui semblent être si importantes sont mauvaises. Amen. Quand vous regardez parfois, si vous avez eu la mauvaise occasion d'être dans le monde à un moment donné de votre vie, quand vous regardez les anciennes photos, vous n'osez même pas les montrer. Personnellement, je n'aime pas montrer les vieilles photos. D'ailleurs, je ne sais même pas où elles sont. Et je ne veux pas le savoir. Amen. Ce sont des choses qui montrent qu'on est passé par des choses bizarres. Hein? Mais quand vous en êtes délivré, quand vous êtes libre, vous êtes bien. Vous êtes très bien. Vous savez, hier soir, il y avait du football. Alors, je sais, il fut un temps où, hein, j'étais tellement prisonnier de ces choses, je n'en ratais pas un seul. Hein, je n'en ratais pas un. Il y en avait en Angleterre, il y avait plein de monde qui était autour à regarder ces matchs-là. Ça s'est terminé tard. Moi, je suis parti dormir. Ça ne me dit plus rien. Oui. Il y a de ces choses qui nous ont pris comme cap. Ce n'est pas mauvais le football, mais ça vous fait perdre du temps. Et parfois, ça vous met de la haine dans le cœur. Ça vous met, vous injuriez, vous faites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Non, ce n'est pas le langage du chrétien. Ce n'est pas le langage du chrétien. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a comme de mal dans le football? Dans le football en soi, il n'y a rien de mal. Mais c'est dans ce qui se passe dans vos cœurs. Moi, j'ai accompagné mon fils tout au long de sa croissance, dans les matchs qu'il jouait. Mais vous voyez des parents qui se disputaient. Il y en a qui se disputaient avec l'arbitre. Il y en a qui menaçaient même l'arbitre, qui voulaient même taper sur l'arbitre. Et il y a d'autres endroits, moi je n'ai pas assisté à ça, mais j'ai déjà lu dans les journaux, il y a d'autres endroits où il y a eu des bagarres entre parents. Vous voyez où ça peut conduire ces choses-là? Mais quand vous êtes détaché de cela, si vous devenez footballeur, vous serez un footballeur chrétien. Il y en a quelques-uns. Et si vous êtes toujours dans le monde, vous allez voir comment le monde vous tient. Le mal que je fais, je le hais. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Dieu répand son esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit, c'est le grand consolateur qui nous conduit dans toute la vérité. Et lorsqu'il nous conduit dans toute la vérité, nous finissons par la connaître, cette vérité, et cette vérité nous affranchit. Elle nous affranchit de la loi du péché. Quand le péché vient nous dire, fais ça, mens. L'Esprit me dit, ne le fais pas. Amen. Et si je le fais, l'Esprit me condamne et je mets ça en ordre. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un de juste. Il se promène de manière juste. Il arrange ce qu'il doit arranger. Il y a la parole qui le délivre. Quand ton frère a quelque chose contre toi, va le trouver. Le Saint-Esprit va le conduire dans ça. Le Saint-Esprit va le conduire dans toutes ces choses. Il mettra toujours sa vie en ordre et il sera libre de prier. Il sera libre de chanter. Il sera libre de louer Dieu. Prions. Père Céleste, te remercions pour cette parole que tu nous as envoyée. Nous le chantons souvent pour la parole que tu nous as envoyée. Nous te louerons. Sois loué, sois béni parce que tu es digne de louange. Que ton nom soit béni, ô Père, et que tu sois notre instructeur, que tu sois notre maître, selon qu'il est dit, ce qui est écrit, c'est la lettre, mais l'Esprit vivifie. C'est que le Saint-Esprit vienne vivifier cela, que le Saint-Esprit soit dominant en nous, afin que nous n'accomplissions plus ce que la chair nous commande de faire, mais que nous puissions accomplir ce que l'Esprit attend de nous. Nous te remercions pour tous tes bienfaits. Maintenant, conduis-nous, ô Dieu, accompagne chacun d'entre nous alors que nous allons rentrer. Que tu nous assistes, que tu nous prennes par la main et que si tu tardes à venir, que tu sois encore au milieu de nous vendredi ou dans d'autres réunions s'il y en a dans les maisons ou dans les visites que nous aurons à accomplir, que tu nous assistes au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.